David Camerou, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence des universités rattaché aux séries Sciences Po. Vous êtes spécialiste de l'Asie du Sud-Est. Les incidents en mer de Chine, c'est un feuilleton qui dure depuis pas mal de temps. Est-ce que cette fois, on est vraiment au bord d'une guerre?
Je ne le pense pas, mais il y a toujours la possibilité d'un accident, parce que quand on a plein d'avions qui se survolent la même région, il y a toujours la possibilité que ça va arriver. On a monté quand même d'un cran dans la rivalité, hein, dans la tension.
Alors, ce qui a mis le feu aux poudres, hein, le week-end dernier, c'est la décision de la Chine de créer ce qu'on appelle une zone aérienne d'identification. Est-ce que Pékin était dans son droit, puisque le Japon et les États-Unis ont aussi leur propre zone depuis des décennies?
Tout à fait, la Chine était dans son droit, mais le problème c'est que cette zone couvre justement ces îles, qui sont une source de différence entre la Chine et le Japon. Et c'est surtout cette question-là, en fait, qui aggrave la situation.
À quoi elles ressemblent ces îles? Pourquoi sont-elles si convoitées, ces îles, donc ces fameuses îles, hein, contrôlées par le Japon et sous le nom de Senkaku et revendiquées par la Chine sous le nom de Diaoyu?
Ils sont en fait une cause de tension simplement depuis les années 68, où on a pensé que peut-être du pétrole dans les eaux autour des îles. Donc c'est une question par les îles en tant que telles, mais c'est la zone maritime autour des îles, la zone d'exclusion économique, exclusivité économique, qui est une source de tension.
Alors, je citais tout à l'heure les États-Unis. Ils sont très présents dans cette zone via leur base militaire au Japon et en Corée du Sud. Alors, même si l'adversaire direct de Pékin, on l'a compris, c'est Tokyo, en réalité, est-ce que l'initiative chinoise du week-end dernier, donc la création de cette zone d'identification aérienne, ne vise pas, en fait, Washington?
Tout à fait. En fait, les Américains, ils ont à peu près 85 000 soldats dans la zone, en Corée du Sud, au Japon, et maintenant 2500 en Australie, et plus les 40 000 en plus à Honolulu, à Hawaï. Donc, nous rentrons dans, en fait, un problème beaucoup plus grave, qui est les relations entre la Chine et les États-Unis, et une sorte de concurrence pour l'hégémonie. Et la question aussi qui se pose, est-ce qu'il ne faut pas mieux une sorte de partenariat sino-américain? C'est certainement ça qui souhaitent les petits pays qui se trouvent un peu les dents dans la face, les pays de l'Asie du Sud-Est, mais aussi l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Ils souhaitent plutôt un partenariat. Ils jouent un peu les Chines contre les États-Unis. La Chine, c'est la locomotive économique, et les États-Unis, c'est le garant de sécurité. Et les Américains maintenant ont toujours, depuis en fait l'annexation des Philippines en 1898, c'était une puissance du Pacifique avec deux volets. Un volet économique, là on négocie une zone de libre-échange en Asie-Pacifique, et une zone sécurité. Et là, avec la décision qui date maintenant de 2 ans, de mettre 60% de la marine américaine dans le Pacifique, on voit bien que les États-Unis ne vont pas se retirer et ils se ferment de plus en plus comme une puissance pacifique.
Donc, on ne va pas vraiment vers le partenariat, parce que, en plus, Washington s'apprête à négocier avec Canberra le déploiement de 2500 marines à Darwin, dans le nord de l'Australie. J'imagine que ça ne va pas plaire non plus à la Chine.
Non plus, mais on est de facto dans une sorte de partenariat économique. La Chine, c'est la plus grande qui possède le plus grand nombre de bons de trésor américains. Sans le soutien chinois, l'économie américaine sera dans une situation catastrophique. Donc, on est dans une partenariat de toute façon économique. Le problème, c'est que l'orgueil nationaliste des uns et des autres ne peut pas accepter que dans un monde de plus en plus indépendant, il faut une sorte de partenariat, et les nationalismes à la fois en Chine, la Chine devient maintenant avec le nouveau dirigeant de plus en plus nationaliste, il s'affirme au moins dans la rhétorique de plus en plus, ça fait pas plaisir à Washington, mais c'est la réalité avec une Chine montante.
David Camerou, qu'est-ce qu'il faut attendre selon vous de la tournée que le vice-président américain Joe Biden entame dans la région? Il va se rendre au Japon, en Chine et en Corée du Sud cette semaine.
Ben, il va d'abord rassurer ses alliés, la Chine et, pardon, le Japon et la Corée du Sud. Et curieusement, cette tension avec la Chine va reprocher le Japon et la Corée du Sud. Or, depuis quelques années, il y a une tension entre les deux aussi sur les questions d'autres îles dans ce cas-ci. Donc, il va rassurer les alliés et il va essayer de trouver une sorte, disons, ils vont parler peut-être pas de partenariat, mais au moins montrer aux Chinois que les États-Unis souhaitent trouver une certaine modus operandi, modus vivendi pour continuer dans le Pacifique.
David Camroux, merci beaucoup pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes maître de conférence des universités rattaché aux séries Sciences Po.